Chapitre 9. En demandant d'aller à pied à Criquefleur, Marichette ne voulait pas seulement marcher, elle espérait pouvoir prendre Psitte avec elle et le consoler. Mais pour cela, il fallait aller le chercher chez Paulin, et elle ne savait même pas comment il s'appelait, car Paulin c'était son petit nom, et il devait en avoir un autre. Lequel et comment demander son adresse? À la vérité, elle aurait pu attendre qu'il revînt de déjeuner et le questionner lui-même, ce qui était plus prudent et plus sûr. Mais s'il ne revenait pas tout de suite, aurait-elle le temps d'aller à Criquefleur et de revenir avant la nuit? Comme son cousin était sorti aussitôt son déjeuner achevé, elle se décida à interroger Divine, mais prudemment, sans se livrer, surtout sans parler de Psitte. « Est-ce que le jeune homme qui est au bureau des voitures doit bientôt rentrer ?» demanda-t-elle. « Monsieur Moreau ? J'aurai un renseignement à lui demander. »« Je ne sais pas. Est-ce qu'il va déjeuner loin d'ici ?»« Il va chez sa mère, qui demeure dans la côte de Criquefleur, à la sortie de la ville, en pleine campagne. » Elle avait appris ce qu'elle voulait savoir, Madame Moreau, dans la côte de Criquefleur. Elle n'aurait qu'à interroger, à la sortie de la ville, le premier passant qu'elle rencontrerait. Comme elle avait, la veille, suivi la route de Criquefleur pour venir chez son oncle, elle n'eut pas à demander son chemin. Bientôt, elle arriva à la côte et elle commença à la gravir entre une double rangée de haies tondues au croissant ou de petits murs en briques à hauteur d'appui, par-dessus lesquels on apercevait les jardins des villas qui se succédaient sans interruption, s'étageant sur la pente du coteau. À mesure qu'on montait, les jardins devenaient plus vastes et plus soignés, comme les villas devenaient plus luxueuses. Les jardinets avec trois ou quatre corbeilles de fleurs étaient remplacés par des parcs aux pelouses ornées de plantes rares, et après les maisonnettes coquettes venaient de vrais châteaux. Cet ordre disait l'histoire de Saint-Maclou et de ses agrandissements. C'étaient quelques artistes, quelques gens d'initiative, au goût indépendant, ayant plus d'idées que d'argent, qui s'étaient les premiers établis dans le pays. Puis, ensuite, attirés par la vogue, étaient arrivés les riches. Serpentant par des courbes douces, à travers ces jardins et ces parcs, la côte était longue. En arrivant en haut, Marichette se trouva en pleine campagne, comme Divine le lui avait dit, non dans des champs, mais au milieu de cours plantées de pommiers et encloses de haies vives, le long desquelles se dressaient çà et là des arbres à hautes tiges, des ormes, des merisiers, des frênes ébranchées en couronne, pour que leur ombrage ne nuisît pas à la pousse de l'herbe. Une petite fille gardait sa vache à la longe dans le fossé de la route. Elle l'interrogea.
« Si je sais où demeure Madame Moreau, pardi, prenez la cavée, là, à votre gauche. C'est la troisième masure à droite, il y a un hec. »
En parisienne qu'elle était, Marichette ne connaissait ni une cavée ni un hec. Cependant, l'indication était à peu près suffisante. Pour se guider, elle n'avait pas besoin de savoir au juste que cavé veut dire chemin creux, masure, cour plantée de pommiers, et que hec, vieux mot resté dans le patois normand, signifie demi-porte. Après avoir suivi un chemin creux bordé de scolopendres et recouvert d'une épaisse voûte de feuillage qui ne laissait passer la lumière du soleil que par places mouvantes, elle arriva à la troisième maison à droite. Elle s'attendait à trouver une masure, selon le mot de la petite gardeuse de vaches, c'est-à-dire une pauvre habitation effondrée. Tout en marchant, elle se disait que c'était vraiment pitié que ce jeune homme si complaisant et si bon en fût réduit à demeurer avec sa mère dans une ruine. Mais au contraire, elle vit devant elle, dans un enclos planté de beaux pommiers, une maisonnette de paysans à l'air propre et coquet, en tout cas en excellent état d'entretien, le toit en chaume couronné de petites flambes dont les feuilles vertes jaillissaient d'un tapis doré d'orpins en fleurs, n'avait pas un trou. Les murs en charpente apparente, avec remplissage de bauge, étaient soigneusement peints, le bois noir, le mortier d'argile mêlé de paille chaulée, de sorte que cette blancheur, rendue plus éclatante par le noir qui l'encadrait, faisait la maison toute lumineuse au milieu de la verdure intense qui l'enveloppait. Point de fumier alentour, mais au fond de la cour, d'un côté un poulailler, de l'autre une étable à vaches, auxquelles on arrivait par deux petits sentiers que le pas journalier avait seul tracé sur l'herbe plus courte et plus drue.
sous ses pommiers pâturait une vache en bricolet court pour qu'elle ne pût pas atteindre les branches si lourdement chargées de fruits que pour les empêcher de traîner à terre ou de se rompre, il avait fallu les soutenir par des bourdes. Ça et là se promenaient des canards, des poules et des dindes qui piquaient l'herbe fleurie de pâquerettes. Tout cela n'indiquait point que ceux qui habitaient cette maison si proprette fussent les pauvres gens qu'elle avait imaginés, et en regardant par-dessus la barrière que recouvrait un porche couvert aussi en chaume, elle se disait qu'elle devait se tromper. Comme elle restait hésitante, un aboiement joyeux et exaspéré éclata. C'était la voix de Psit. En même temps, elle vit bondir par-dessus la demi-porte qui empêchait les volailles d'entrer dans la maison une forme noire et grise. C'était son chien qui accourait vers elle en poussant des cris entrecoupés. « Psit, Psit !» cria une voix d'homme. Mais déjà, elle était entrée dans la cour et Psit était dans ses bras. « Comment, c'est vous, mademoiselle ?» s'écria Paulin en paraissant sur le seuil de la maison. Auprès de lui se montra une femme d'une quarantaine d'années, d'apparence douce et résignée, vêtue en paysanne aisée, robe d'indienne, bonnet de linge sans ruban, sa mère sans doute. Il était venu à elle en courant, tandis que, de son côté, elle continuait à avancer, portant Psit dans ses bras. « Il vous a deviné, » dit-il en montrant le chien, et sans que nous sachions ce que cela signifiait, il s'est élancé par-dessus le hec. J'ai cru qu'il se sauvait. Sa mère arrivait. « Mademoiselle est la nièce de M. Belloc, » dit-il. « Sa nièce à la mode de Bretagne, » dit Marichette. « En réalité, sa cousine. »« Mademoiselle Marichette, » continua Paulin. Et comme Mme Moreau la regardait avec une certaine surprise, « C'est le petit nom de Marie dans notre pays, » dit Marichette. « Nous sommes du Béarn. Ma mère et ma grand-mère s'appelaient Marichette. » Puis, tout de suite, elle expliqua ce qui l'amenait. Elle allait à Criquefleur voir son cousin Sylvain Belloc et elle profitait de cette promenade pour prendre Psit. Elle acheva par quelques paroles émues de remerciement à l'adresse de Mme Moreau qui voulait bien recueillir son chien. « J'espère que mon cousin se laissera toucher, » dit-elle, « et que bientôt je pourrai vous en débarrasser. »« Mais il ne nous gêne pas, » dit Mme Moreau, « et nous serions fâchés de le voir partir. »« Est-ce que la voiture vous attend au bout du chemin ?» demanda Paulin. « Quelle voiture ? Je ne vais pas en voiture à Criquefleur, j'y vais à pied. Je vous ramènerai Psit en repassant. » Mais Mme Moreau ne voulut pas qu'elle partît ainsi, et devant son insistance, Marichette dut entrer dans la maison. Elle trouva un intérieur d'une propreté qu'on ne rencontre pas ordinairement chez les paysans. Le couvert était mis dans la cuisine, sur une table en bois blanc lavée à la cendre. À côté des assiettes étaient posées des serviettes en bonne toile de lin. Sur un vaisselier étaient exposées des tasses en faïence anglaise, des sébiles en terre rouge, des œufs d'autruche et, sur sa dernière tablette, des oiseaux empaillés. « Mon père était marin, » dit Paulin, suivant le regard de Marichette. « Cette maison est celle où il est né et il a rapporté ses objets de ses voyages. » Mme Moreau voulut que Marichette se mît à table. Mais celle-ci n'accepta point, elle avait déjeuné. D'ailleurs, elle ne devait pas s'attarder. Alors Paulin, prenant une chaise, sortit vivement et presque aussitôt il rentra, portant sur un lit de feuilles un abricot qu'il venait de cueillir à un arbre palissé contre la maison et qu'il offrit à Marichette. C'était un de ces abricots de la grosseur d'une grosse pêche, tendre, savoureux, juteux, comme ils n'ont mûri qu'au bord de la mer quand ils rencontrent certaines conditions d'exposition et aussi d'humidité dans l'air. « C'est par la grande route que vous voulez aller à Criquefleur ?» demanda Paulin pendant qu'elle mangeait son abricot. « Mais sans doute, il y a donc plusieurs routes. Il y a un chemin de traverse par la falaise et le rivage qui fait gagner 3/4 d'heure. Je ne le connais pas, j'aurais peur de me perdre. Maman va vous le montrer, car pour moi, il faut que je rentre. Monsieur Belloc ne plaisante pas avec l'exactitude. » Marichette voulut refuser, mais Mme Moreau insista avec tant de bonne grâce qu'elle finit par accepter. Ce n'est pas un dérangement pour maman, dit Paulin. À 10 minutes d'ici, elle vous aura mise dans le bon chemin et vous ne pourrez plus vous tromper. » La maison fut vivement fermée et tandis que Paulin descendait à Saint-Maclou en courant pour attraper le temps perdu, Madame Moreau et Marichette, précédées de Psy fou de joie, suivaient la cavée qui devait les conduire au chemin de la falaise. Et, tout en marchant, Madame Moreau parlait de son fils. C'était un brave enfant, aussi intelligent que bon, plein de cœur et de courage. Il avait de grandes dispositions pour l'architecture et après avoir travaillé 1 an ou 2 encore avec M. Belloc, il irait à Paris pour suivre les cours de l'école des Beaux-Arts. Ce n'était qu'accidentellement qu'il était chargé du service des voitures et pendant 2 mois seulement. En réalité, il était commis architecte, c'était lui qui dessinait la plupart des plans des maisons que construisait M. Belloc et qui surveillait les travaux. Et comme sur ce sujet, sa tendresse maternelle était intarissable, elle conduisit Marichette jusqu'à l'entrée de Criquefleur.